Europe 1, c'est arrivé demain.
Bonjour Jean Tirole.
Oui, bonjour Patrick Cohen.
Président honoraire de l'École d'économie de Toulouse, prix Nobel d'économie 2014. Jean Tirole, nous subissons une exceptionnelle double crise sanitaire et économique. La première est en cours, nous la vivons dramatiquement. Pour la deuxième, c'est un saut dans l'inconnu, mais nous savons déjà que le choc économique du confinement sera monstrueux. Mais avant tout, dites-nous d'abord quelles sont les premières leçons que vous tirez de cette catastrophe qui semble avoir complètement pris au dépourvu la plupart des pays européens.
Oui, effectivement, nous avons été un peu pris au dépourvu, contrairement aux pays de l'Asie du Sud-Est, je pense à Taïwan ou à Singapour ou à la Corée du Sud. Nous ne sommes pas vraiment préparés, alors je parle de tout l'Occident ici, nous ne sommes pas préparés à cette épidémie malgré les signes précurseurs. Il y a eu quand même H1N1, il y a eu SRAS, il y a eu d'autres cas, et puis il y a évidemment les risques permanents qui sont la guerre biologique, qui sont la fonte du permafrost, etc. Donc, c'est quelque chose auquel on aurait dû mieux se préparer globalement, et puis ne pas être dans le déni. Effectivement, il y a certains pays qui ont été dans le déni, et maintenant nous avons la vague. Maintenant, ce sont des événements extrêmement rares, c'est sûr qu'on peut pas être parfaitement préparé. Je crois qu'il faut beaucoup d'humilité pour face à cette situation, à la fois sanitaire et économique, comme vous l'avez dit, et essayer de réfléchir à qu'est-ce qui va se passer demain.
Oui, mais il y a un effet du court-termisme des politiques publiques, des vues trop courtes.
Oui, mais c'est un effet qui est tout à fait connu. Disons, il existe dans beaucoup d'autres domaines. On le voit dans l'éducation en France, la recherche. On le voit dans le climat, qui est l'exemple le plus clair, où on attend depuis 30 ans sans faire.
Eh bien voilà, la liaison est interrompu avec.
Parce que, évidemment, bon, les politiques eux-mêmes sont contraints par les élections. Et donc, c'est un peu automatique. Donc, il va falloir que la population elle-même réfléchisse un petit peu à son modèle de consommation et de développement, face en particulier à des menaces sanitaires et climatiques qui sont vraiment, qui menacent son existence.
Ça veut dire aussi une révision de nos priorités, peut-être, des politiques publiques qui investissent massivement dans la santé,
alors,
la recherche.
Oui, bien sûr, mais les politiques ne peuvent pas tout faire. C'est-à-dire que si on rejette, par exemple, leurs actions climatiques, si on dépense beaucoup pour la santé, qui coûte très cher aux dépenses. Donc il faut aussi une prise de conscience de la population elle-même, c'est-à-dire que nous devons tous faire quelque chose. On l'a dit souvent pour le climat, ce sont les individus, les entreprises, les administrations. On le voit dans la crise sanitaire. L'État peut interdire les rassemblements, peut faire avoir un certain nombre de politiques, mais il faut aussi que nous-mêmes, en tant que citoyens, respections les consignes.
Oui. Le choix du confinement, Jean Tirole, et de mettre à l'arrêt tout ce qui n'est pas essentiel, c'est le choix de protéger des vies plutôt que l'économie. Cela nous paraît évident, naturel, mais on a vu les réticences de Boris Johnson en Grande-Bretagne, les refus encore aujourd'hui de Trump et de Bolsonaro aux États-Unis et au Brésil, qui semblent considérer que les vies humaines valent moins que l'économie. Quelle réflexion ça vous inspire ?
Alors, je dirais bien sûr que les vies humaines ont une valeur importante et donc il faut faire ce qu'il faut pour éviter une perte trop importante de vies humaines. Il ne faut pas non plus totalement négliger l'économie pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a l'après-virus, donc comment ça va se passer. Je vous rappelle quand même que vous faites un petit calcul de coin de table, comme mes collègues de Toulouse, Christian Gollier et Stéphane Straub ont fait. Vous regardez combien de pertes de PIB résultent de, disons, 2 mois de confinement à moitié de travail, c'est-à-dire l'équivalent d'un mois, ça fait 8% du PIB quand même. Alors quand vous regardez d'autres projections qui disent que ça pourrait durer des mois, voire un an, vous voyez un petit peu la crise économique que ça pourrait poser, avec bien sûr la possibilité en Europe de crise des dettes souveraines, c'est-à-dire des dettes des États, qui pourraient plus se renouveler sur les marchés. Donc il y a ça, et puis il y a aussi la désobéissance, le manque de respect des lois. C'est-à-dire que le confinement, ça peut durer pendant un certain temps, mais au bout d'un certain temps, les gens vont vouloir sortir. Et s'il y a une désobéissance civile, ça serait aussi très très grave pour la santé. Donc, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut faire tout ce qu'il faut pour éviter des décès, mais il ne faut pas qu'il y ait un open bar non plus. C'est-à-dire que, par exemple, si vous envoyez un chèque à la population, à tout le monde dans la population, ça ne va pas. Vous dépensez de l'argent, vous ne ciblez pas assez les dépenses. Et je pense que le gouvernement...
C'est ce que Trump a prévu de faire, ce chèque de 1 200 $ adressé à chaque citoyen
Exactement.
Américain. Ça
et
fait partie du méga plan de relance voté cette semaine par le Congrès. Vous trouvez ça idiot?
C'est-à-dire que ça ne cible pas assez. Donc, les États-Unis sont dans une situation plus aisée parce qu'ils, d'une certaine manière, ils peuvent facilement relever l'impôt. L'impôt est extrêmement faible, surtout pour les riches aux États-Unis. C'est très très facile de relever l'impôt pour payer des dettes. En Europe du Sud, c'est beaucoup plus difficile. Donc, on va se trouver devant une situation d'après coronavirus où il faudra bien réfléchir à comment même financer tous les programmes qu'on va avoir, comment on va financer les indemnisations de particuliers, d'entreprises, de banques, de compagnies d'assurance. Donc, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'open bar.
Oui, ça veut dire que vous êtes favorable à une stratégie de reprise progressive du travail, par exemple en dépistant, avec un dépistage massif où on laisse retourner au travail et à l'activité des gens dont l'immunité a été prouvée
oui,
par un test.
Ça c'est l'autre volet, c'est-à-dire qu'il faut effectivement, j'ai des collègues à l'Université libre de Bruxelles qui ont proposé de faire systématiquement un double test. Donc effectivement un test qui regarde la présence d'anticorps et puis la détection du coronavirus, et ceux qui ont développé des anticorps et qui ne sont pas porteurs peuvent retourner au travail immédiatement pour éviter de perdre de trop d'output et créer une dette publique trop élevée. De façon générale, c'est très important. Je pense qu'il n'y a pas que l'économie, il y a aussi l'éducation, par exemple. Imaginez que pendant 6 mois, il n'y ait plus d'école et plus d'université. Alors, dans le court terme, c'est pas grave, à part que les conséquences à long terme sont très élevées, parce qu'effectivement, on perd du savoir, on perd des compétences, mais dans 20 ans. Donc, je pense que...
Et on aggrave les inégalités aussi.
De mettre en œuvre une politique qui ramène les gens au travail... de façon compatible bien sûr avec la santé publique, mais aussi vite que possible.
Jean Tirole, on marque une pause avant de poursuivre avec vous une nouvelle qui vient de nous parvenir à propos de ce Covid-19, c'est la mort d'un homme politique, Patrick Devedjian, l'ancien maire d'Antony, député des Hauts-de-Seine, ancien ministre de Nicolas Sarkozy. On apprend qu'on savait qu'il était malade du Covid-19. On vient d'apprendre à l'instant son décès des suites de cette maladie. Jean Tirole, on vous retrouve dans un instant. On parle des conséquences du choc économique que nous subissons, des scénarios de l'après-Covid-19. A tout de suite.
Europe 1. De 9h à 10h, vous écoutez Patrick Cohen pour C'est arrivé demain sur Europe 1.
Avec le prix Nobel d'économie Jean Tirole à propos d'une crise sanitaire qui sera aussi un choc économique de première ampleur. L'INSEE a déjà calculé que le confinement a fait chuter d'un tiers l'activité économique, production et consommation, et que chaque mois de confinement représente une perte de 3 points de PIB annuel. Vous nous disiez plutôt 4 points par mois, d'après vos calculs à l'École d'économie de Toulouse. Hein, c'est ça, Jean Tirole. En tout cas, c'est vertigineux et sans précédent. Qu'est-ce que ça signifie à la fin? Récession, chômage et perte de pouvoir d'achat?
Alors d'abord, les calculs sont vraiment à la louche, hein, il faut bien se rendre compte, c'est très très difficile, on n'a pas de statistiques, et puis il faut prévoir combien de temps cette crise sanitaire durera, donc c'est quasiment impossible, mais enfin, une chose est claire, c'est que les chiffres vont être extrêmement élevés, donc ça veut dire plus de chômage, ça veut dire beaucoup moins de pouvoir d'achat, ça il faut quand même réaliser que ça va nous coûter très cher. Et donc la question, c'est celui de l'après-crise qui entrera dans la crise économique à ce moment-là. Donc des plans de relance, bien sûr, alors ça c'est déjà prévu. Et je crois que la BCE, justement, a fait du très bon travail en soutenant les États, les banques. Et après, il y a le plan de relance budgétaire qui devra un peu cibler quand même les entreprises qui en ont besoin. Les PME, bien sûr, parce qu'elles sont plus fragiles financièrement. Et puis, elles sont moins diversifiées aussi, donc ça va être un défi pour nous tous d'essayer de garder l'activité économique. Mais maintenant, il faudra aussi faire un sacrifice, et ça pose la question de comment tout ça va être financé.
Oui, comment financer ? Oui, c'est-à-dire la dette publique va forcément exploser. C'est un sujet ou c'est soutenable, Jean Tirole ?
Ah ben c'est un sujet. Disons que dans la sortie de crise, il y aura 3 ou 4 solutions. Donc la première solution, ça serait effectivement des impôts exceptionnels qui touchent pas seulement les riches, mais aussi la classe moyenne. Si on veut lever suffisamment d'argent, c'est difficile. On est déjà dans un pays où il y a des prélèvements très très importants, mais on le fera, je pense, c'est bien sûr. Répudier la dette, ça me semble totalement hors de propos. C'est-à-dire répudier la dette, c'est dire qu'on ne va pas la payer, ou en termes pudiques, on va la restructurer. Ça veut dire qu'on n'aurait plus du tout confiance dans la France, et ça veut dire que la France serait immédiatement exclue des marchés financiers, donc elle pourrait même pas renouveler sa dette existante. C'est-à-dire que ça voudrait dire qu'elle serait en équilibre budgétaire immédiat à un moment où il y aurait des dépenses très importantes à faire. Troisième solution, c'est un peu ce qui se passe actuellement. Ça a commencé la monétisation de la dette, c'est-à-dire que la BCE émet des liquidités et rachète de la dette d'État et de la dette des banques. Donc ça, c'est une possibilité qui mutualise un petit peu au sein de l'Europe, bien sûr le coût de la crise. Et ce qui est très impressionnant justement à la BCE, c'est qu'il y a eu quand même un consensus pour le faire, qu'on ne voit pas du tout au niveau des États, c'est-à-dire au niveau des budgets.
L'Allemagne s'oppose à la mutualisation des dettes européennes à travers les corona bonds.
Oui, alors l'Allemagne
s'oppose, dont l'idée est soutenue par la France. Hein. C'est dommage.
Alors, Il y a deux choses. Hein. Donc la première, c'est que l'Allemagne s'y oppose au niveau des budgets, mais pas au niveau de la BCE. Hein. Donc la BCE, en monétisant effectivement, crée une certaine mutualisation. Maintenant, pour les autres formes de mutualisation, il y a le mécanisme européen de stabilité, mais qui est compliqué parce qu'il faut une unanimité des ministres des Finances.
Oui. C'est sous condition.
C'est-à-dire des prêts aux États, et c'est très très compliqué. L'État français, avec 8 autres pays, a proposé d'émettre des obligations, non pas d'État, mais européennes, solidaires, ce qu'on appelle les Corona Bonds, qui est un peu une version des Eurobonds dont on avait parlé au niveau de la crise financière de 2008, qui n'ont pas vu le jour. Et ils n'ont pas vu le jour pour une bonne raison, c'est-à-dire que les intérêts de l'Europe du Nord ne sont pas ceux de l'Europe du Sud. C'est-à-dire que nous, on a intérêt, évidemment, aux Corona Bonds. L'Europe du Sud est très endettée, et effectivement, il y a le danger d'avoir une crise souveraine, c'est-à-dire que les marchés financiers ne veulent plus prêter, par exemple, à l'Italie. Parce que l'Italie est déjà endettée à 135-140%, l'Allemagne est endettée à moins de 60%, et donc il faut comprendre que la mutualisation va dans le sens d'aider les pays du Sud au détriment des pays du Nord. On a laissé développer des asymétries très importantes depuis 2008, c'est regrettable, mais c'est comme ça. Et du coup, l'Europe du Nord n'a pas tellement intérêt à entrer dans un système de Corona Bonds. Ceci dit, l'Europe du Nord pâtirait évidemment d'une crise de l'Italie, de la France, de l'Espagne, de la Belgique, etc. Et pour l'instant, je pense que ce qui va se passer, c'est comme en 2008, c'est essentiellement la Banque centrale qui va sauver les États plutôt que les budgets des États eux-mêmes.
Pour finir, Jean Tirole, et pour l'avenir, comment imaginez-vous le monde de demain ? Est-ce que vous l'imaginez avec un changement de modèle, un changement de société ? Est-ce que vous espérez que cette crise va réveiller des réflexes de solidarité, de coopération dans nos sociétés ?
Alors oui, il y a toujours, après une guerre, il y a toujours plus d'empathie, plus de participation aux groupes sociaux. Plus d'empathie surtout vis-à-vis de son propre groupe, il faut bien le dire, mais on espère quand même que ça va mieux se passer. Il faut, comme on le disait tout à l'heure, avoir moins de court-termisme, c'est-à-dire une vision à courte vue, envisager l'avenir plutôt que de consommer. Et d'ailleurs, on le voit dans tous les domaines, on le voit dans le climat, on le voit dans l'éducation, on le voit dans les dettes souveraines, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Il n'y a pas photo, si je puis m'exprimer ainsi. Il faut dépenser, il faut sauver l'économie, il faut protéger les particuliers qui sont fragiles. Personne n'est responsable du coronavirus, c'est une guerre contre un virus. Donc il faut dépenser suffisamment. Et on s'est mis dans une situation, en disant, mais là, vous savez, la dette, c'est pas grave, on s'est mis dans une situation où on pourrait avoir des difficultés. Et c'est un peu dommage. Donc il faut arrêter de raisonner à court terme, et il faut arriver. Mais pour ça, les politiques ont besoin aussi de l'appui des populations. On le voit avec le climat, comme je le disais tout à l'heure. Si la population ne veut pas de tarification du carbone, par exemple, c'est très difficile de la mettre en œuvre. Il va falloir un changement des mentalités. La globalisation, on entend dire, ben non, il faut plus de globalisation. Ça, c'est un petit peu une erreur. Ou alors, il faut dire, attention, en plus du choc que vous allez subir en termes de pouvoir d'achat, vous allez aussi subir un second choc, c'est-à-dire que vous allez payer vos biens de consommation beaucoup plus cher. Or, la demande des gilets jaunes et d'autres, c'est vraiment pour plus de pouvoir d'achat.
Bien sûr, tout ça est contradictoire. Merci beaucoup, Jean Tirole, de nous avoir accordé cet entretien, et pardon pour les brèves coupures de liaison qui l'ont émaillé. Merci à vous.